Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission portrait consacrée aujourd'hui à Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI. Et pour nous parler de la petite dernière de la famille, qui en fait fut une grande figure de la fin de l'Ancien Régime, j'ai le plaisir de recevoir Jean de Vigry, qui a publié Le Sacrifice du Soir, vie et mort de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, aux éditions du Cerf. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour madame.
Bienvenue au micro de Canal Académie.
Merci de m'avoir invité.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur émérite des universités. Votre période de prédilection est le XVIIIe siècle. Avec des travaux remarqués sur l'histoire de l'éducation et de l'Église, vous êtes également co-auteur du Livre noir de la Révolution française que vous étiez d'ailleurs venu présenter au micro de Canal Académie et qui est toujours disponible dans notre médiathèque. Mais revenons à Madame Élisabeth. Dans votre introduction, vous dites avoir commencé à vous intéresser à elle en 1994, à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Qu'est-ce qui vous a frappé en elle? Qu'est-ce qui vous a attiré vers elle?
Eh bien, j'ai étudié Louis XVI, j'ai publié une biographie de Louis XVI, d'ailleurs en 2003. J'ai étudié Louis XVI, je m'intéressais beaucoup à la reine, pour laquelle j'éprouve beaucoup d'admiration encore aujourd'hui. Admiration qui ne se dément jamais. Et je me suis aperçu qu'il y avait un troisième personnage. Et que ce personnage, que j'ai appelé dans ma biographie de Louis XVI l'ange du temple, était la sœur du roi, la petite sœur du roi, Madame Élisabeth. L'ange du temple, l'ange gardien de la famille royale.
Alors au cours de cette émission, nous allons retracer ensemble son parcours. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'elle a été orpheline à 3 ans. A-t-elle eu pour autant une enfance malheureuse?
Elle a été orpheline de père à l'âge de 1 an et de mère à l'âge de 3 ans. Évidemment, elle a dû souffrir de l'absence de ses parents, mais elle a bénéficié de l'affection de sa sœur aînée, qui avait 5 ans de plus qu'elle, Marie-Clotilde, qui est devenue ensuite reine de Sardaigne. Et puis, elle a été éduquée par la comtesse de Marsan, personne très entendue, très intelligente, et surtout par 2 sous-gouvernantes qui lui ont marqué beaucoup d'affection, Madame de Macot et Madame d'Aumale, qui ont été autant de mères pour elle.
Alors, dans votre ouvrage, vous consacrez des pages très intéressantes à son éducation. On découvre ainsi qu'elle a été initiée très tôt à la philosophie, dès l'âge de 7 ans. C'était assez exceptionnel pour une princesse.
C'est une innovation. La philosophie n'est pas prévue dans l'enseignement ordinaire des jeunes filles, encore moins des petites filles. C'est Madame de Marsan qui a eu cette idée. Elle avait une amie, Madame de La Ferté-Imbault, fille de Madame Geoffrin, mais point philosophe du tout, à la différence de sa mère. Et Madame de La Ferté-Imbault venait tous les jours à Versailles. Elle soupait avec la comtesse de Marsan, faisait un petit tour près du Grand Canal et ensuite administrait la leçon de philosophie aux 2 petites filles. Et Madame Élisabeth a pris goût immédiatement à ces leçons et quand on voulait la punir, on la menaçait de la priver de la leçon de philosophie.
Quelle est la philosophie qu'on lui inculque?
La philosophie stoïcienne. Il se trouve que dans une famille très proche de la mienne, on conserve des cahiers, un cahier d'histoire et un cahier de philosophie, tous ces 2 cahiers ayant été dictés à Madame Clotilde et à Madame Élisabeth. J'ai donc pu voir de très près l'enseignement qui lui était donné. Le cahier de philosophie est composé de sentences des philosophes antiques, grecs et latins, en général des stoïciens, Épictète, Plutarque, Cicéron. Alors le stoïcisme, c'est une philosophie que l'on considère comme décadente, mais en fait, le stoïcisme enseigne à élever l'âme, à s'élever au-dessus du malheur. Je crois que c'est Épictète qui dit « Il n'arrive jamais de mal à l'homme de bien ». C'est-à-dire, l'homme de bien est au-dessus du mal, au-dessus du malheur. Ce fut le cas de Madame Élisabeth.
Philosophie qui lui sera de grand
secours. Qui lui sera d'un grand secours lorsqu'elle sera enfermée dans la prison du Temple.
Alors, outre l'apport de la philosophie des stoïciens, vous mettez également beaucoup en avant l'apport de la maison de Saint-Cyr. Et pourtant, elle n'en fut pas élève.
Non, elle n'en fut pas élève, mais ses sous-gouvernantes avaient été toutes les 2 anciennes élèves de Saint-Cyr, Madame d'Aumale et Madame de Macot. Et toute petite, on l'amenait à Saint-Cyr pour lui faire rencontrer des petites filles de son âge, les petites pensionnaires, et elle jouait avec elles, et aussi avec les grandes élèves. Et puis, Madame d'Aumale, il faut rappeler, je l'ai rappelé dans mon livre, était la petite nièce de Rosalie d'Aumale, laquelle avait été la secrétaire de Madame de Maintenon. Et par Madame d'Aumale, l'esprit de Saint-Cyr, l'honneur de Saint-Cyr sont venus jusqu'à Madame Élisabeth. La leçon de Madame de Maintenon, la leçon de sagesse, quelle est cette leçon? Savoir tenir son rang, savoir être digne de soi-même, savoir être digne de la cour de France et de la maison de France. Et Madame Elisabeth a toujours été attachée à sa propre dignité, à son rang, jusque dans la prison et jusqu'à l'échafaud, puisqu'elle voudra mourir la première quand on la mènera à l'échafaud.
Alors, nous avons parlé philosophie, la porte de la maison de Saint-Cyr. Une chose apparaît aussi très nettement et très tôt dans la vie de Madame Elisabeth, c'est la place de la religion.
Ah oui, bien sûr. Elle a reçu une éducation profondément catholique. Elle a eu un confesseur dès l'âge de 6 ans, l'abbé Madier. Elle a reçu les leçons de religion et de spiritualité de sa tante Louise, la sœur de son père, qui était carmélite. Elle a été également élevée vers la religion la plus haute, la plus orthodoxe, auprès de ses tantes, par ses tantes, les sœurs de Louis XV, non seulement la tante Louise carmélite, mais les trois autres sœurs qui vivaient au château de Bellevue et qu'elle voyait souvent. Et puis alors, elle a fréquenté beaucoup les couvents, elle a fréquenté Saint-Cyr, mais elle a fréquenté aussi le Carmel de Saint-Denis. Et là, elle a pu admirer, contempler la vie religieuse, dans ce qu'elle a de plus noble.
À 15 ans, elle décide même de se consacrer à Dieu.
Alors, c'est ce que dit sa nièce, la future duchesse d'Angoulême, Marie-Thérèse, dont elle a assuré une partie de l'éducation et qui a vécu seule avec elle à la prison du Temple. C'est ce que dit Marie-Thérèse. Et la comtesse d'Armaillé, qui est une des meilleures biographes de Madame Elisabeth au siècle dernier, au XIXe siècle, affirme qu'elle a fait un vœu. Enfin, la duchesse de Duras dira plus tard, qui était une grande amie de Madame Elisabeth, dira après la Révolution que la princesse avait conservé jusqu'à la mort son innocence baptismale.
Quelle sorte de vœu fait-elle ?
Sans doute un vœu de virginité, très probablement.
Parce que donc, elle ne se voue pas à Dieu entièrement ?
Non, elle ne veut pas se consacrer à Dieu par les liens de la religion, par des vœux. Elle ne veut pas se lier par des vœux de religion. Mais il est très probable qu'elle a fait un vœu de virginité. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle s'est consacrée à Dieu en ne se mariant pas, mais pour autant, elle n'a pas voulu entrer en religion. Pourquoi ? Parce qu'elle a voulu rester avec sa famille.
Voilà, c'est l'autre particularité, je dirais, de Madame Elisabeth. C'est la place de sa famille dans sa vie.
Oui, elle a une grande vénération pour la famille, pour ce qu'un philosophe des années 50, Gabriel Marcel, appelait le mystère de la famille. Elle-même, orpheline, a senti très profondément le besoin de sa famille, de ceux qui étaient autour d'elle. Elle s'est consacrée au ménage royal, à les soutenir, à les réconforter dans l'épreuve, et elle a été fidèle à eux jusqu'à la mort. C'est ce que lui dira d'ailleurs Marie-Antoinette dans la dernière lettre qu'elle lui adressa de la conciergerie, dans cette fameuse lettre qui a été exposée, qu'on a pu voir à l'exposition Marie-Antoinette, et qui commence par ces mots « C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Vous qui avez tout sacrifié pour nous. » Donc, grande vénération pour la famille, grand attachement à la famille. C'est quelque chose de très vénérable chez Madame Elisabeth. Elle a le culte de la famille et elle a le culte de l'amitié.
Et au-delà, donc on voit une princesse qui a reçu une éducation très solide, religieuse, qui est douée de multiples qualités, puisque vous mettez en avant ses talents intellectuels, enfin ses qualités intellectuelles, mais elle a aussi des talents manuels. Elle aime l'équitation, c'est une princesse très vive.
Oui madame, vous m'avez bien lu, effectivement, elle a tous les talents. Peut-être la seule qualité qu'elle n'ait pas, c'est l'orthographe. Elle fait des quantités de fautes d'orthographe, mais pour tout le reste, elle est excellente.
Et à la fois, vous dites très timide et très éloquente.
Elle appartient à une espèce de femme peu nombreuse, les timides éloquentes. Et les timides également exhortatrices. Elle sait exhorter. Et les timides communicatrices ou communicatives. Généralement, elle a peur de voir des gens nouveaux. Elle redoute beaucoup les entrevues avec les grands de ce monde. Quand la reine lui amène par exemple un de ses frères, un archiduc d'Autriche, chez elle dans son appartement, elle est désemparée. La reine, avec beaucoup de bonne grâce, fait les premiers frais, facilite l'entretien. Donc elle est timide. Mais quand elle sort de sa timidité, alors elle devient extraordinaire et elle acquiert sur ceux auxquels elle parle un très grand ascendant.
Parce qu'en revenant peut-être plus à sa vie, donc elle est jeune fille, elle s'est consacrée à Dieu, mais quelle est la vie qu'elle va mener jusque, je dirais, aux premières années de la Révolution, où après, bien sûr, son parcours va évoluer.
Elle a sa petite cour au milieu de la cour, puisque à l'âge de 14 ans, le roi constitue sa maison princière, et comme il est d'usage à la cour de France. Elle a sa petite cour, elle a un personnel nombreux, 68 personnes au total, si l'on compte la dame d'honneur, la dame d'atour, les dames pour accompagner, l'aumônier, l'écuyer, les femmes de chambre, on se croirait dans un conte de Perrault. Et alors elle gouverne ce petit monde, cela l'occupe. Elle gouverne également l'argent dont elle dispose, qui est la pension que lui verse le roi. Et puis elle gère sa propriété de Montreuil, que Louis XVI lui donne en 1781, dans laquelle elle n'a pas le droit de coucher, de passer la nuit, jusqu'à l'âge de 25 ans, mais qui lui donne aussi beaucoup d'occupations parce qu'elle s'occupe non seulement de la propriété, des jardiniers, des jardins, des serres, mais aussi des pauvres de Montreuil, de la paroisse de Montreuil.
Parce qu'un des aspects de sa personnalité dont nous n'avons pas encore parlé, c'est sa grande générosité.
Oui, elle dépense beaucoup pour les pauvres. Malheureusement, il nous manque certains de ses comptes, mais j'ai évalué à peu près au quart de ses revenus ce qu'elle donne aux pauvres tous les ans. Cela pourrait être davantage, mais il ne faut pas oublier qu'elle doit entretenir Montreuil et puis qu'elle doit aussi faire les dépenses des voyages de la cour. Quand la cour se déplace à Fontainebleau, à Compiègne et dans d'autres résidences, Madame Elisabeth paie les frais du voyage et de sa maison princière.
D'ailleurs, elle est souvent à court d'argent, il lui arrive même
d'emprunter. Voilà. Elle emprunte au financier Harvelet, qui était un des hommes les plus riches de France. Et l'histoire ne dit pas s'il a obtenu d'ailleurs le prêt qu'elle a fait demander par la marquise de Bombelles, sa grande amie.
Alors avant de poursuivre cette émission et de passer aux années révolutionnaires, je vous propose de marquer une courte pause.
Canal Academy dresse pour vous le portrait d'un peintre de renom, Élisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste officielle de la reine Marie-Antoinette. Partie en Italie au moment de la Révolution, elle parcourt Turin, Parme, Rome et Naples avant de voyager dans toute l'Europe pendant plusieurs années. Élisabeth Vigée-Lebrun, souvenir d'une grande dame de la peinture, une émission en compagnie de Geneviève Haroche-Bouzinac, à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Madame, monsieur, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Jean de Vigry pour évoquer le destin de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI. Et entrons maintenant dans la Révolution. Et tout d'abord, Madame Élisabeth s'intéresse-t-elle à la politique et perçoit-elle la montée du danger avant 1789 ?
Oui, presque tout de suite. À la fin de l'Ancien Régime, elle fait une parfaite confiance à son frère. Elle pense qu'il va surmonter les difficultés qu'il rencontre, en particulier la révolte des parlements. Elle pense qu'il y arrivera, parce que c'est un homme de bien, il veut le bien. Et puis, dès le début de la Révolution, elle mesure, et c'est la différence avec son frère, elle mesure la profondeur de l'abîme qui s'est creusé, la profondeur du fossé. Et elle voit tout de suite que le péril est terrible et que la monarchie peut sombrer. Quelques jours après le 14 juillet, elle dit à Angélique de Bombelles, sa grande amie qui le rapportera plus tard au comte Ferrand, son premier biographe, elle dit « Si le roi n'a pas la sévérité nécessaire pour faire couper 2-3 têtes, tout est perdu. » Donc elle mesure tout de suite la gravité de l'événement révolutionnaire.
Et quelle va être son attitude ?
Son attitude est celle de la sœur, d'abord de la sœur du roi. Vous savez que le roi gouverne seul, il est le seul roi, et il n'y a personne qui puisse gouverner ou commander autre que lui. Mais il est inséparable de sa famille. Il faut savoir ça. La famille royale est toujours là. Les membres de la famille sont toujours ensemble. Alors, Madame Élisabeth n'a pas de conseil à donner à son frère, qui est l'aîné de la famille, qui est le roi. Elle n'a pas de conseil à lui donner, elle n'a pas d'avis à lui donner. Son rôle est de se tenir dans une grande réserve. Et simplement, elle sortira de cette réserve à certaines occasions, en particulier lors du vote de la Constitution civile du clergé, et en 1792, quand le roi lui demandera de jouer un rôle.
Et vous dites, elle, son attitude était de ne pas s'abaisser. Elle était résolue à ne pas...
À garder son rang, à garder sa dignité. Ainsi, par exemple, lorsqu'elle est aux Tuileries, qui ne sont pas très loin d'ici, quand elle est aux Tuileries, elle fait une promenade tous les jours au bois de Boulogne, ou bien elle va jusqu'à Versailles. Et l'écurie royale, qui est réduite à sa plus simple expression à cause des mesures de l'Assemblée constituante, ne veut lui donner qu'un cheval et un simple écuyer. Or, elle a droit à plus, étant donné qu'elle est la sœur du roi. Elle dit « Je ne céderai pas sur ce point. Je veux qu'on me donne les chevaux auxquels j'ai droit et le personnel auquel j'ai droit. » Donc là, elle montre qu'elle est toujours une princesse, qu'elle veut affirmer son rang. C'est très remarquable.
Alors, Varennes va constituer un tournant dans le traitement accordé à la famille royale. Quelle va être la position de Madame Élisabeth lors de cet épisode de Varennes ?
Madame Élisabeth est prévenue quelques jours avant, peut-être même quelques semaines avant, du projet d'évasion du roi et de la famille royale. Le roi veut aller à Montmédy, sur la frontière autrichienne, pour retrouver son indépendance. Elle est prévenue, donc elle sait qu'on va partir. Elle accompagne la famille royale. Elle aurait pu partir, elle aurait pu quitter Paris avec ses tantes qui sont allées à Rome en mars 1791. Les tantes lui ont dit « Élisabeth, venez avec nous ». Non, elle a dit « Non, je veux rester avec le roi et avec la reine ». Donc, elle accompagne le roi et la reine dans leur évasion. Et elle les accompagne dans l'épreuve. Elle est arrêtée avec eux et ramenée avec eux de force à Paris, aux Tuileries.
Ce retour, d'ailleurs, donne lieu à quelques scènes presque comiques, j'ai envie de dire.
Pittoresque, puisqu'elle se penche lorsqu'on arrive près de Paris. Le député Barnave se penche à la portière, qui est dans la voiture, se penche à la portière pour haranguer la foule et l'exhorter à ne pas commettre de cruauté, de violence. Et Madame Élisabeth a peur qu'il bascule de l'autre côté de la portière et le saisit par les basques de son habit. Et ça amuse beaucoup la reine, qui est toujours prête à rire de quelque chose.
Autre scène avec l'autre invité, entre guillemets, qui s'est invité lui-même.
Alors Pétion, le futur maire de Paris, qui est assis à côté d'elle dans la berline royale et qui s'endort un moment sur son épaule et qui croit que Madame Élisabeth a des complaisances pour lui. Et Madame Élisabeth, au lieu d'être confuse de cet épisode, en rira en écrivant à ses amis. Elle dit « ça m'a beaucoup amusé ».
D'ailleurs, c'est un trait de caractère qui revient souvent.
Elle aime rire.
Elle aime rire.
Oui.
Et une de ces dames, qui est la marquise Desmontiers, qui est surnommée Démon, par exemple.
Oui, elle l'appelle Démon. Mon cher Démon. Parce que Démon est une jeune femme, elle a 19 ans, et elle a des difficultés avec sa belle-mère. Pas très grave, sans doute, mais Madame Élisabeth lui dit « il faut pratiquer le pardon des injures. Votre belle-mère, il faut être gentille avec elle ». Elle exhorte ces dames d'honneur. Elle les conseille, elle les réforme. C'est assez amusant de voir cela.
Après Varennes, la famille royale va se trouver dans des conditions de plus en plus dures. Et à partir du 10 août 1792, c'est l'enfermement.
C'est l'enfermement, le 13 août exactement, à la prison du Temple. Elle est enfermée avec le roi, la reine et leurs enfants. D'abord dans la petite tour et ensuite dans la grande, où les énormes murs très épais suintent d'humidité et où les fenêtres sont obstruées. Il n'entre qu'un demi-jour.
Et là, quel va être le rôle de Madame Élisabeth ?
Alors, Madame Élisabeth, au début, est très indignée par le traitement qu'on leur réserve. Elle a des mouvements de colère. Elle est tout le temps à protester auprès des gardiens. Et puis, peu à peu, elle se rend compte que cette attitude est nuisible et nocive. Et alors, elle va parler aux gardiens. Les gardiens sont des municipaux, c'est-à-dire des gens du conseil de la commune de Paris. Ce sont des élus du peuple. Et ils sont tirés au sort tous les jours. 3 ou 4 municipaux viennent donc tous les jours garder la famille royale et passent le jour et la nuit. Alors elle va décider de leur parler et leur demander ce qu'ils font, s'ils ont de la famille, leurs occupations. Elle va se rapprocher d'eux. Elle va se constituer ainsi, ils y sont sensibles, pas tous, mais beaucoup, va se constituer ainsi un réseau de communication qui va lui permettre de faire passer du courrier à l'extérieur. Il y a donc eu des lettres de Mme Élisabeth à son directeur spirituel, son confesseur, l'abbé de Gevance de Firmont, qui malheureusement les a brûlées, et des lettres à la marquise de Soran, qui est à Paris et qui était sa dame d'atour. Et cette correspondance, malheureusement, est perdue. Mais enfin, elle a entretenu un lien avec l'extérieur grâce à ce réseau de communication. Et elle communique avec ses municipaux, soit par des petits billets écrits sur les bouchons de carafe, sur les papiers qui bouchent les carafes, soit par un code de signes de gestes.
Après Varennes, elle a eu une place assez particulière que lui a accordée son frère, Louis XVI.
Alors son frère s'est rendu compte, sans doute à cause de l'exhortation de Madame Élisabeth au député Barnave dans la berline royale au retour de Varennes, il s'est rendu compte du talent de sa sœur qu'il avait méconnu jusqu'alors. Et il se dit, je ne lui ai peut-être pas donné assez d'importance. Et en 1792, au printemps 1792, il lui confie une mission quasi, non pas officielle, mais officieuse, de contact avec le comité Montmorin. Le comité Montmorin qui est composé de 4 personnages de l'Assemblée nationale qui, ce comité, veut assurer non pas le salut du trône, dont tout le monde sait qu'il est perdu, mais le salut de la famille royale. Il prépare donc des projets d'évasion et Madame Élisabeth est le contact du roi avec ce comité.
A-t-elle été une conseillère
de
Louis
ne sais pas exactement parce que nous n'avons pas de relation précise de son activité dans ce domaine. Mais nous savons que Malouet, l'un de ses 4 députés, la voyait souvent, venait la voir chez elle, au pavillon de Flore. Et nous savons que Malouet lui a soumis un projet d'évasion élaboré par ce comité qui datait du 13 juillet, un projet d'évasion de la famille royale par la Normandie. Et Madame Élisabeth a dit, en voyant ce projet, elle a dit « ce projet est bon, mais nous avons pour l'instant pris d'autres mesures ». Ces autres mesures étaient les suivantes. On avait donné beaucoup d'argent au chef de l'insurrection, au chef populaire, et on pensait les avoir ainsi achetés. Et la suite a montré qu'ils avaient empoché l'argent, mais qu'ils avaient trahi leurs promesses.
Alors revenons peut-être aux conditions de vie de Madame Élisabeth aux côtés de la famille royale au Temple. Vous insistez sur la discipline de vie qu'elle s'est fixée. Vous racontez qu'elle marchait dans
sa chambre. Elle marche dans les chambres, dans l'espace qui leur est attribué. Comme elle est très active, qu'elle a toujours fait, comme nous dirions aujourd'hui, beaucoup de sport. C'était une cavalière émérite. Elle marchait aussi beaucoup à pied. Alors elle est malheureuse dans cette tour. Alors elle marche, la montre à la main et un livre dans l'autre main. Un livre de piété en général. Elle traverse tout l'appartement puis elle revient. C'est ainsi qu'elle fait de l'exercice. Autrement, elle se consacre à l'éducation de sa nièce, Marie-Thérèse, future duchesse d'Angoulême, et à la vie familiale.
Et d'ailleurs, au début de la Révolution, elle a créé sa propre confrérie aux deux cœurs, Jésus et Marie.
C'est ça, oui. Elle a constitué une association pour prier le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Priez le cœur de Jésus et le cœur de Marie pour la France, pour le salut de la France et pour le salut de l'Église de France. Association composée de dames qu'elle connaît, qui verse une cotisation. Et avec cet argent, on achète deux cœurs d'or que la princesse donne à la cathédrale de Chartres et qui se trouvent encore au trésor de cette cathédrale. Ils sont reproduits dans mon livre.
Oui, tout à fait. Donc, finalement, la fin approche. Marie-Antoinette est d'abord séparée de son fils. Puis Marie-Antoinette va être enlevée, enfin jugée avant d'être exécutée. Madame Élisabeth n'en sera pas informée.
Non, elle n'en sera pas informée. Quand la reine est guillotinée le 16 octobre, Madame Élisabeth et sa fille n'en savent rien. Le petit garçon non plus. C'est étrange parce que la mort du roi avait été connue de sa famille. Pourquoi Marie-Antoinette? Je ne sais pas.
Alors pourquoi surtout, on a l'impression à vous lire que Madame Élisabeth était assez populaire, pourquoi a-t-on réclamé sa mort?
On a réclamé sa mort, d'abord c'est Hébert, c'est les enragés, c'est le parti enragé qui a réclamé sa mort. Et à ce moment-là, c'était en novembre 1793, Robespierre s'est interposé. Et puis on réclame à nouveau sa mort en avril 1794, cette fois ce sont des sections de Paris. Hébert est déjà sacrifié, mais les sections de Paris veulent que soient exterminés tous les membres. C'est les termes qu'elles emploient, tous les membres de l'exécrable race des Capets. Elle fait partie d'une race maudite, une race qu'il convient d'exterminer, un peu comme les Vendéens, qui seront considérés comme des sous-hommes, comme une race qui corrompt le reste de l'humanité. Il faut donc qu'elle disparaisse de ce monde, qu'elle ne soit plus.
Elle va montrer une grande dignité lors des derniers moments.
Oui, non seulement dignité, mais elle va se révéler encore jusqu'au bout, l'exhortatrice qu'elle avait été pendant sa vie, puisque après la condamnation, lorsque les prisonniers condamnés sont réunis dans la salle des condamnés à mort, elle va les réconforter, elle va aller de l'un à l'autre pour leur donner des paroles de réconfort. Et elle continuera dans la charrette, nous le savons. Nous ne savons pas exactement les paroles qu'elle a prononcées, sauf une qu'on a entendue, mais on l'a vue parler sans cesse pendant tout le trajet de la Conciergerie à la place de la Concorde, enfin à la place de la Révolution. À ses deux voisines, qui étaient des vieilles dames, qui avaient peur lorsqu'elles voyaient une souris et qu'il fallait soutenir jusqu'au bout. Ce qu'elle a fait. Et alors, les témoins l'ont vu tourner la tête à droite et à gauche en parlant à ces pauvres dames.
Magnifique. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce qu'une cause en béatification a été ouverte?
Non, madame. Une cause de béatification n'a pas été ouverte. En 1929, une lettre a été adressée par quatre personnes, dont le prince Xavier de Bourbon-Parme, au pape Pie XI, pour demander l'introduction de la cause. Nous ne savons pas quelle a été la réponse du pape. Deux associations ont été créées, une première après la guerre et une seconde très récemment en 2008 pour demander aux autorités ecclésiastiques l'ouverture d'un procès de béatification.
Merci infiniment Jean de Vigry de nous avoir rappelé le parcours de la sœur de Louis XVI, de nous avoir montré sa vivacité de caractère. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « Le sacrifice du soir, vie et mort de Madame Élisabeth » paru aux éditions du Seuil.
Merci à vous madame.